Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит два раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер один. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего АФ и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Pour ou contre l'uniforme?
Speaker A.
Je trouve étonnant que, bien qu'abandonné en France depuis 1968, l'uniforme à l'école revienne à chaque rentrée sur le devant de la scène. Les avis sont partagés. Égalité pour certains, privation de liberté pour d'autres, l'uniforme continue à diviser. Il est vrai que d'une part, il permet de stopper la dictature des marques à l'école et gommer les inégalités sociales. Cependant, en même temps, il nie les différences de chacun et il est un pas en arrière en matière de liberté.
Speaker B.
Je suis dans une école d'hôtesse dans laquelle il faut porter l'uniforme bleu 2 jours par semaine. Et les autres jours, on peut mettre autre chose. Mais jeans et baskets sont interdits. Et les jupes sont obligatoires pour les filles. Je trouve cela plutôt bien car cette année a été la première durant laquelle tout le monde est allé l'un vers l'autre sans distinction de style, de marque, etc. Puisque tout le monde est habillé pareil, personne ne se juge et les contacts sont géniaux.
Speaker C.
Je suis totalement pour les uniformes. Car cela entraîne énormément de choses positives. D'abord, les uniformes aident les surveillants à reconnaître les intrus potentiels dans l'école. Ensuite, les uniformes sont beaucoup moins chers que les vêtements à la mode que les élèves souhaitent généralement porter. Et puisque les élèves sont tous habillés de la même manière, il n'y a aucune distinction de goût vestimentaire et surtout d'aisance financière, et c'est très bien comme ça.
Speaker D.
Je suis contre l'uniforme à l'école. Pour moi, il signifie avant tout la restriction de l'expression de la personnalité. Je ne suis pas la seule à me plaindre que le code vestimentaire imposé par l'école empêche les jeunes de se différencier des autres et d'afficher une facette de la personnalité. En général, les uniformes sont fabriqués dans des tissus résistants et synthétiques, dans le but d'être durables, ce qui les rend peu confortables. De plus, le port de la jupe en hiver est peu pratique.
Speaker E.
À mon avis, il semble y avoir beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients au port de l'uniforme scolaire. D'abord, il n'y a pas de doute que les logos de l'école sont portés fièrement par tous les élèves. De plus, la garde-robe scolaire nous permet quand même d'avoir plusieurs choix de vêtements. Je suis persuadé que nous réussirons à trouver d'autres moyens pour nous démarquer et montrer notre personnalité, que ce soit dans le domaine académique, artistique ou sportif.
Speaker F.
Moi, j'ai remarqué une chose curieuse. les professeurs ont plus tendance à respecter leurs étudiants lorsqu'ils portent un uniforme, de la même façon que l'on respecte les travailleurs adultes en uniforme, pompiers, policiers, infirmières, etc. De plus, ils n'ont pas besoin de réprimander les tenues qu'ils jugent incorrectes. Du côté des parents, il y a aussi du positif. Bien des disputes sont évitées le matin puisque les élèves savent exactement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas porter.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Pour ou contre l'uniforme ?
Speaker A.
Je trouve étonnant que, bien qu'abandonné en France depuis 1968, l'uniforme à l'école revienne à chaque rentrée sur le devant de la scène. Les avis sont partagés. Égalité pour certains, privation de liberté pour d'autres, l'uniforme continue à diviser. Il est vrai que d'une part, il permet de stopper la dictature des marques à l'école et gommer les inégalités sociales. Cependant, en même temps, il nie les différences de chacun et il est un pas en arrière en matière de liberté.
Speaker B.
Je suis dans une école d'hôtesse dans laquelle il faut porter l'uniforme bleu 2 jours par semaine. Et les autres jours, on peut mettre autre chose. Mais jeans et baskets sont interdits. Et les jupes sont obligatoires pour les filles. Je trouve cela plutôt bien car cette année a été la première durant laquelle tout le monde est allé l'un vers l'autre sans distinction de style, de marque, etc. Puisque tout le monde est habillé pareil, personne ne se juge et les contacts sont géniaux.
Speaker C. Je suis totalement pour les uniformes, car cela entraîne énormément de choses positives. D'abord, les uniformes aident les surveillants à reconnaître les intrus potentiels dans l'école. Ensuite, les uniformes sont beaucoup moins chers que les vêtements à la mode que les élèves souhaitent généralement porter. Et puisque les élèves sont tous habillés de la même manière, il n'y a aucune distinction de goût vestimentaire et surtout d'aisance financière, et c'est très bien comme ça. Speaker D.
Je suis contre l'uniforme à l'école. Pour moi, il signifie avant tout la restriction de l'expression de la personnalité. Je ne suis pas la seule à me plaindre que le code vestimentaire imposé par l'école empêche les jeunes de se différencier des autres et d'afficher une facette de la personnalité. En général, les uniformes sont fabriqués dans des tissus résistants et synthétiques, dans le but d'être durables, ce qui les rend peu confortables. De plus, le port de la jupe en hiver est peu pratique.
Speaker E.
À mon avis, il semble y avoir beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients au port de l'uniforme scolaire. D'abord, il n'y a pas de doute que les logos de l'école sont portés fièrement par tous les élèves. De plus, la garde-robe scolaire nous permet quand même d'avoir plusieurs choix de vêtements. Je suis persuadé que nous réussirons à trouver d'autres moyens pour nous démarquer et montrer notre personnalité, que ce soit dans le domaine académique, artistique ou sportif.
Speaker F.
Moi, j'ai remarqué une chose curieuse. Les professeurs ont plus tendance à respecter leurs étudiants lorsqu'ils portent un uniforme, de la même façon que l'on respecte les travailleurs adultes en uniforme, pompiers, policiers, infirmières, etc. De plus, ils n'ont pas besoin de réprimander les tenues qu'ils jugent incorrectes. Du côté des parents, il y a aussi du positif. Bien des disputes sont évitées le matin puisque les élèves savent exactement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas porter.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Ж
соответствуют содержанию текста. 1. Vrai. Какие не соответствуют? 2. Fou. И о чем в тексте не сказано? То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Je fais mon stage. Bonjour, Monsieur Rico.
Bonjour.
Je suis Olivia Collin. Je suis en 6e 2. Est-ce bien vous qui vous occupez du stage Art et Histoire?
Oui, c'est ça. Tu as besoin d'informations?
Oui, je voudrais y participer et savoir en quoi il va consister, ce stage. Parce que je suis une passionnée d'art, en particulier de peinture et de dessin. Il y aura des cours pratiques?
Alors, attention, ce stage est plus tourné vers la mythologie et l'histoire. Nous partons une semaine près de la mer Méditerranée pour visiter tout d'abord une ville qui est une reconstitution d'un palais de la Grèce antique, et autour de cela, nous aurons des activités.
Ah d'accord, ça a l'air intéressant, mais c'est un peu comme un cours d'histoire et franchement, je ne suis pas très forte en histoire. Ce n'est pas vraiment mon truc.
Je vois, mais voilà ce que je peux te dire. D'abord, effectivement, ce stage approfondit une partie du cours d'histoire et pour votre petit examen de fin d'année, cela peut être utile, n'est-ce pas? Ensuite, étudier en voyageant et en s'amusant, c'est bien, non?
Oui, ça a l'air assez sympa. Et qu'est-ce qu'on fait en plus? Est-ce qu'il y a d'autres activités?
Eh bien, les organisateurs proposent de nombreux ateliers de jeux adaptés aux adolescents, comme des séances de théâtre où l'on vous fera jouer des épopées héroïques. Il y aura des ateliers d'écriture, des promenades sur les chemins de l'histoire.
Ça a l'air bien. Je pense qu'en plus, je pourrais m'occuper du décor de la scène. Alors maintenant, comment je peux avoir le programme et connaître les détails pour l'inscription?
Écoute, j'organise une réunion mardi soir pour les élèves et les parents. Tu n'as qu'à venir, comme ça tu auras une idée tout à fait claire de ce que l'on fait, car je propose une exposition de photos sur le stage de l'an dernier. Tu verras, ça va te plaire.
J'en suis sûre. Est-ce qu'on pourra entendre les témoignages des élèves qui ont fait ce stage l'an dernier?
Bien sûr. J'ai invité plusieurs élèves de mon groupe, ils seront ravis de faire partager leur expérience.
C'est parfait. À mardi alors.
Au revoir, Olivia.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Je fais mon stage. Bonjour, Monsieur Rico.
Bonjour.
Je suis Olivia Collin. Je suis en 6e 2. Est-ce bien vous qui vous occupez du stage Art et Histoire?
Oui, c'est ça. Tu as besoin d'informations?
Oui, je voudrais y participer et savoir en quoi il va consister, ce stage. Parce que je suis une passionnée d'art, en particulier de peinture et de dessin. Il y aura des cours pratiques?
Alors, attention, ce stage est plus tourné vers la mythologie et l'histoire. Nous partons une semaine près de la mer Méditerranée pour visiter tout d'abord une ville qui est une reconstitution d'un palais de la Grèce antique et autour de cela, nous aurons des activités.
Ah d'accord, ça a l'air intéressant mais c'est un peu comme un cours d'histoire et franchement, je ne suis pas très forte en histoire. Ce n'est pas vraiment mon truc.
Je vois, mais voilà ce que je peux te dire. D'abord, effectivement, ce stage approfondit une partie du cours d'histoire et pour votre petit examen de fin d'année, cela peut être utile, n'est-ce pas? Ensuite, étudier en voyageant et en s'amusant, c'est bien, non?
Oui, ça a l'air assez sympa. Et qu'est-ce qu'on fait en plus? Est-ce qu'il y a d'autres activités?
Eh bien, les organisateurs proposent de nombreux ateliers de jeux adaptés aux adolescents, comme des séances de théâtre où l'on vous fera jouer des épopées héroïques. Il y aura des ateliers d'écriture, des promenades sur les chemins de l'histoire.
Ça a l'air bien. Je pense qu'en plus, je pourrais m'occuper du décor de la scène. Alors maintenant, comment je peux avoir le programme et connaître les détails pour l'inscription?
Écoute, j'organise une réunion mardi soir pour les élèves et les parents. Tu n'as qu'à venir, comme ça tu auras une idée tout à fait claire de ce que l'on fait, car je propose une exposition de photos sur le stage de l'an dernier. Tu verras, ça va te plaire.
J'en suis sûre. Est-ce qu'on pourra entendre les témoignages des élèves qui ont fait ce stage l'an dernier?
Bien sûr. J'ai invité plusieurs élèves de mon groupe. Ils seront ravis de faire partager leur expérience.
C'est parfait. À mardi, alors.
Au revoir, Olivia.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Entretien avec Pascal Poret.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios Pascal Poret, jeune chanteuse parisienne. Malgré son jeune âge, Pascal se produit depuis de nombreuses années dans les cafés et les cabarets de la capitale et écrit elle-même ses chansons. En août dernier, elle a chanté pour la première fois au festival en Allemagne. Vous tournez sur scène depuis plusieurs années. Vous avez également sorti deux albums, Sans sucre s'il vous plaît en 2006, et maintenant c'est votre deuxième album, Le Grand Jeu. Quel est votre parcours?
J'ai commencé par étudier le violoncelle à l'âge de 8 ans. Puis j'ai tout arrêté jusqu'à l'adolescence. Là, j'ai appris à jouer de la guitare. J'écrivais des chansons en anglais que je chantais dans des bars en bas de chez moi pour des amis. 2 ans plus tard, je suis tombée sur un poème de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur » que j'ai mis en musique. C'est là que j'ai basculé vers la chanson à texte et j'ai changé de langue, j'ai chanté en français.
Dites-moi Pascal, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chanteuse et d'écrire des chansons?
Alors il se trouve que je n'ai pas vraiment choisi d'être chanteuse. C'est arrivé par la force des choses. Donc j'écrivais des chansons et n'étant pas de milieu musical, je ne connaissais absolument personne pour les chanter. Donc il a fallu que je me mette à chanter pour que ces chansons soient entendues. J'ai commencé à prendre des cours de chant et de guitare et à faire des concerts dans des bars parisiens. Et puis j'ai fait plusieurs enregistrements en studio. Donc pour moi, être interprète, s'entraîner à chanter tous les jours, ça reste un travail quotidien difficile qui demande une certaine discipline que j'ai encore du mal à tenir parfois. Mais par contre, composer et écrire, c'est vraiment un plaisir et un besoin même.
J'ai lu dans votre biographie que lorsque vous étiez une jeune adolescente, vous êtes partie étudier près de Brighton. Est-ce que ce séjour en Angleterre a influencé votre musique, votre personnalité?
Alors mon année en Angleterre, ça a vraiment été un tournant décisif dans ma vie. C'est à partir de cette expérience, en fait, que j'ai quitté le monde de l'enfance. J'ai vécu cette année en Angleterre un peu comme une rupture. C'était très douloureux. Et puis, quelques années plus tard, j'ai réussi à retirer le bon de cette expérience. Et maintenant, je me sens beaucoup plus forte avec cette nouvelle langue qui est l'anglais.
Alors, aujourd'hui, vous écrivez donc en français. Et quels sont les chanteurs français qui vous ont influencé?
Il y a Serge Gainsbourg, Paris Combeau, Edith Piaf, Barbara. Après, c'est toujours une question assez difficile, parce que pour moi, l'inspiration reste instinctive. Il faut laisser son cœur parler. Je ne cherche jamais à ressembler à un autre artiste. Par contre, il m'arrive de faire des clins d'œil, et par exemple, pour la chanson « Un pour deux », il y a un clin d'œil que je n'ai jamais dit à personne encore. C'est un grand secret. Mais je vais vous le dire, c'est que quand je chante « Un pour deux », c'est un clin d'œil à l'été indien de Joe Dassin. En fait, j'avais commencé à écrire cette chanson en gardant exactement la même mélodie que Joe Dassin. Mais c'était complètement inconscient. Je ne savais pas que j'avais repris l'été indien. Et donc, à 18 ans, je voulais la faire écouter à ma mère qui me dit « Cela me rappelle quelque chose, je ne sais pas quoi ». Et donc, au bout de plusieurs jours, j'ai trouvé d'où venait ce plagiat et puis j'ai modifié la mélodie.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Entretien avec Pascal Poret.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios Pascal Poret, jeune chanteuse parisienne. Malgré son jeune âge, Pascal se produit depuis de nombreuses années dans les cafés et les cabarets de la capitale et écrit elle-même ses chansons. En août dernier, elle a chanté pour la première fois au festival en Allemagne. Vous tournez sur scène depuis plusieurs années. Vous avez également sorti deux albums, Sans sucre s'il vous plaît en 2006, et maintenant c'est votre deuxième album, Le Grand Jeu. Quel est votre parcours ?
J'ai commencé par étudier le violoncelle à l'âge de 8 ans. Puis j'ai tout arrêté jusqu'à l'adolescence. Là, j'ai appris à jouer de la guitare. J'écrivais des chansons en anglais que je chantais dans des bars en bas de chez moi pour des amis. 2 ans plus tard, je suis tombée sur un poème de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur » que j'ai mis en musique. C'est là que j'ai basculé vers la chanson à texte et j'ai changé de langue. J'ai chanté en français.
Dites-moi Pascal, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chanteuse et d'écrire des chansons ?
Alors il se trouve que je n'ai pas vraiment choisi d'être chanteuse. C'est arrivé par la force des choses. Donc j'écrivais des chansons et n'étant pas de milieu musical, je ne connaissais absolument personne pour les chanter. Donc il a fallu que je me mette à chanter pour que ces chansons soient entendues. J'ai commencé à prendre des cours de chant et de guitare et à faire des concerts dans des bars parisiens. Et puis j'ai fait plusieurs enregistrements en studio. Donc pour moi, être interprète, s'entraîner à chanter tous les jours, ça reste un travail quotidien difficile qui demande une certaine discipline que j'ai encore du mal à tenir parfois. Mais par contre, composer et écrire, c'est vraiment un plaisir et un besoin même.
J'ai lu dans votre biographie que lorsque vous étiez une jeune adolescente, vous êtes partie étudier près de Brighton. Est-ce que ce séjour en Angleterre a influencé votre musique, votre personnalité ?
Alors mon année en Angleterre, ça a vraiment été un tournant décisif dans ma vie. C'est à partir de cette expérience, en fait, que j'ai quitté le monde de l'enfance. J'ai vécu cette année en Angleterre un peu comme une rupture. C'était très douloureux. Et puis, quelques années plus tard, j'ai réussi à retirer le bon de cette expérience. Et maintenant, je me sens beaucoup plus forte avec cette nouvelle langue qui est l'anglais.
Alors, aujourd'hui, vous écrivez donc en français. Et quels sont les chanteurs français qui vous ont influencé ?
Il y a Serge Gainsbourg, Paris Combeau, Edith Piaf, Barbara. Après, c'est toujours une question assez difficile, parce que pour moi, l'inspiration reste instinctive. Il faut laisser son cœur parler. Je ne cherche jamais à ressembler à un autre artiste. Par contre, il m'arrive de faire des clins d'œil, et par exemple, pour la chanson « Un pour deux », il y a un clin d'œil que je n'ai jamais dit à personne encore. C'est un grand secret. Mais je vais vous le dire, c'est que quand je chante « Un pour deux », c'est un clin d'œil à l'été indien de Joe Dassin. En fait, j'avais commencé à écrire cette chanson en gardant exactement la même mélodie que Joe Dassin. Mais c'était complètement inconscient. Je ne savais pas que j'avais repris l'été indien. Et donc, à 18 ans, je voulais la faire écouter à ma mère qui me dit « Cela me rappelle quelque chose, je ne sais pas quoi ». Et donc, au bout de plusieurs jours, j'ai trouvé d'où venait ce plagiat et puis j'ai modifié la mélodie.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.